j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Je vous prie de m'excuser. Donc, lorsque l'on veut offrir un cadeau, on choisit le cadeau pour la personne que l'on aime, on le choisit beau, et puis on choisit l'écrin pour porter le cadeau. Et il doit être aussi beau que le cadeau, parce que c'est l'écrin qui va mettre le cadeau en valeur. Ces deux récits sont construits ainsi, mais d'une certaine manière, en sens inverse. Ce qui est à l'intérieur annonce ce qui entoure. C'est donc le cadeau qui va mettre en valeur l'écrin. Je vous ai dit que depuis un mois, nous étions en train de réfléchir dans l'évangile de Luc. Donc je fais un tout petit rappel de nos réflexions. Nous n'oublions pas donc que ce texte est précédé d'un voyage de Jésus à l'extérieur d'Israël, sur l'autre rive du lac, chez des étrangers habitant une région qui s'appelle la Décapole. C'est pourquoi on indique dès le début du texte le retour de Jésus en Galilée. Qui est Jésus ? C'est la question qui nous habite. Un prophète qui décale les certitudes et le savoir des Juifs sur leur rapport aux autres et à Dieu. Mais c'est un mauvais point pour lui, parce que tout le monde sait ce que doit être un prophète et qu'il ne rentre pas dans le cadre de ce que l'on sait. Au point même, non seulement de ne pas le reconnaître, mais de vouloir le tuer. Mais ça ne va pas l'arrêter. Et dans une deuxième étape, il va donner l'image d'un Dieu qui, par compassion pure, rend vivant à une veuve son fils unique qui était déclaré mort. Elle ne lui a rien demandé. C'est lui qui, par un acte de compassion, va agir. Cet acte de puissance-là bouge les foules. Et elles vont répandre la nouvelle « Dieu rend visite à son peuple par son prophète ». Mais il ne faut pas que l'idée de ce prophète, de la compassion de Dieu pour son peuple, soit captée par une position, notre, le nôtre, à nous seuls, notre Dieu, notre, le nôtre, à nous seuls. Notre prophète, non. Alors le lac qui sépare les étrangers d'Israël est traversé par Jésus et ses compagnons. Et Jésus, à la manière des prophètes Élie et Élisée, va là-bas délivrer un homme qui est possédé par une multitude de démons. Le peuple à l'étranger a peur, très très peur de cette puissance. Et il va même demander à Jésus de quitter sa terre. Mais il va reconnaître que l'homme est sauvé. Et le langage est celui du salut. L'homme, lui, désire rester auprès de Jésus. Mais Jésus l'envoie témoigner de sa rencontre avec Dieu. Il part donc et il témoigne de sa rencontre avec Jésus. Vous voyez de nouveau le petit décalage. Voilà où nous en sommes avec notre texte d'aujourd'hui. Jésus retraverse ce lac. Ce lac se transforme donc, pour le coup, en une voie de communication entre les deux peuples, plutôt que d'être une séparation. Ce qui signifie, symboliquement parlant, que la parole, la rencontre, la guérison, la compassion de Dieu ne sont décidément pas la possession du seul peuple de Dieu. Les foules, pas moins de 5 fois nommées dans notre texte, sont comme toujours pareilles à des foules. Elles réagissent en masse. Vous le savez, c'est de nos temps pareil. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui brandisse une parole et qu'une foule se mette derrière lui. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'elles sont dans l'attente. L'attente de ce Messie, guérisseur, prophète, cet exorciste aussi. Une attente, mais malheureusement toujours faussée par leurs rêves, et non par la réalité qui leur est offerte. Si nous pensons au plus profond de nous-mêmes, à notre attente de Dieu, ne sommes-nous pas souvent membres de ces foules ? C'est-à-dire, je pense à nos prières, par exemple. Ce sont bien souvent des demandes, et encore plus souvent des demandes pour notre propre profit, pour notre famille, pour les gens que nous aimons, pour nous-mêmes. Et elle témoigne donc de ce que nous croyons être notre rapport à Dieu, c'est-à-dire notre seule parole latin pour nous-mêmes. Nos prières ressemblent à des supplications dans leur forme, mais si on les regarde bien, elles sont souvent des ordres envoyés vers Dieu ou vers Jésus. Fais ceci, ou fais cela, ou ne fais pas ça, ou ne permets pas ci. Jaïros, c'est un homme important de la ville et de la synagogue, car il est le chef de la synagogue. Il tombe aux pieds de Jésus, c'est le geste de la supplication. Son enfant est à la mort, le temps presse, il implore. De nos jours, nous dirions que le pronostic vital est engagé. C'est un jargon médical, mais la demande faite par l'homme à Jésus est une demande de guérison. Et Jésus, à la différence des médecins de son époque, y va sans dire un mot. En effet, les médecins de l'époque pouvaient juger de considérer comme impossible la guérison de certaines maladies. Et donc, dans ces cas-là, il recommandait de ne pas y aller, de ne prodiguer aucun soin, de laisser la personne mourir. Il refusait de se déplacer. Ce pouvait être mauvais pour leur aura d'aller vers quelqu'un dont on savait qu'il allait vers la mort et donc qu'il ne guérirait pas. Avec Jésus, la différence, c'est qu'il ne semble même pas s'enquérir des symptômes de la maladie, ni de ses causes. Il ne s'arrête pas au jugement des autres sur l'issue de la maladie. Il entend, il écoute, il est touché et il part. Et l'autre épisode arrive là, coupant la montée de Jésus vers ce cas désespéré. Je ne sais pas vous, mais moi, en lisant le texte, je me dis « le temps manque ». Je vis un peu l'angoisse du Père. Je soupçonne l'impatience en lui. Et je me dis, mais la maladie de la femme, ses pertes de sang, c'est pas nouveau, ça fait 12 ans qu'elle en souffre. J'attends presque que Jésus dise à la femme, écoute, attends, il y a un ordre de priorité, je vais d'abord voir cet enfant qui est en train de mourir, ensuite je te verrai. En fait, la femme ne demande rien, contrairement à Jaïros. Elle avance comme dans un dernier geste possible. Elle ne se fait voir de personne et elle touche le vêtement de Jésus. Quel aplomb! En plus, elle risque gros. Elle est impure selon la loi des Juifs et son impureté est contagieuse à toute personne qui la touche. Donc vous voyez, elle traverse la foule et elle vient toucher son manteau. Elle traverse cependant la foule. Son geste fait penser à de la superstition. C'est ce que j'ai pensé la première fois que j'ai lu ce texte. Mais on regarde un petit peu comment Jésus réagit, comment Luc réagit dans son écriture, et ni l'un ni l'autre ne semblent juger ce geste un peu anarchique. La totalité de l'être de cette femme se jette dans ce dernier mouvement, dans cette espérance de guérison, dans cette confiance, dans cet homme qui guérit tant de monde, cet homme si différent de tous les médecins qu'elle a pu consulter. Ceux-ci l'ont vidée de toute espérance. Ceux-ci l'ont ruinée, sans jamais arriver à guérir cette maladie. Cette maladie qui, dans son impureté, l'a rejetée et l'excluait de tout lien social. Par derrière. Elle arrive par derrière Jésus. Si elle était venue devant comme Jaïros, sans doute les foules l'auraient éloignée à cause de cette impureté. Et sur l'instant, à se toucher, son mal s'arrête. Elle le sent. Tout comme Jésus le sent. Sans qu'au travers de lui, une action a eu lieu, une force lui a été captée. Il n'est pas en colère, non. Il cherche à créer le contact avec le bénéficiaire de cette force. Ce n'est pas magique. Ceci ne peut se produire que dans le sens d'une réelle rencontre entre Dieu et le bénéficiaire. Qui m'a touché ? La femme passe de derrière à devant, face à lui, face à tous. Elle se jette à ses pieds, angoissée de l'issue de cette rencontre. Elle a rendu Jésus impur, elle le sait, selon la loi, en le touchant. Elle peut être condamnée par lui, elle peut être condamnée par le peuple, par le chef de la synagogue qui est toujours là. Son corps est réparé, certes. Cependant, sa vie dans le peuple est en grand danger. Le texte nous dit simplement « mais ». C'est un petit mot qui va casser immédiatement toute angoisse. La parole de Jésus est « ta foi t'a sauvé. Va en paix ». Devant le peuple, l'amour de Dieu, passant par Jésus, pour cette femme, reconnaît le salut. Le même salut que l'homme délivré de ses démons avait reçu. Salut que Jésus lui-même n'a pas apporté par une prière, par un geste ou par un acte de compassion, mais que seul sa confiance à elle, en lui, a provoqué. Nous nous posions déjà la question, dimanche dernier, du lien entre foi et salut. Et là encore, il est question de foi qui trace le chemin vers le salut, sans calcul, dans un simple élan, je crois. Alors que chez le possédé de la décapole, la foi et le salut arrivait après la rencontre et la guérison. Deux mouvements opposés, mais deux mouvements mettant en lien salut et foi. La foule venant de la synagogue va interrompre cet épisode. Et pourtant, le texte continue sur le même thème. Alors que la foule répand la nouvelle de la mort de la fillette, Jésus ne répond pas à la foule, se tourne vers l'homme et lui dit « N'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. » Encore une fois, le thème le même, le thème de la foi et du salut. La foi d'un être pour le salut d'un autre, encore une manière de décliner salut et foi. Et Jésus dit que la peur est mauvaise conseillère. Dans son livre « Vivant jusqu'à la mort », Paul Ricoeur indique que si souvent les personnes qui visitent les malades dont le pronostic vital est engagé ont déjà, en entrant dans la chambre, dans leur regard, dans leur esprit, dans leur cœur, l'idée de rencontrer un mort. Encore un peu vivant, certes, mais un mort. Si près de la mort. Et non, dit Paul Ricoeur. Tout être qui vit est vivant. Et quand on va le visiter, on visite et en rencontre un vivant. Ne te laisse pas entraîner, dit Jésus, dans le jugement de cette foule. Crois seulement, comme cette femme malade a cru, et le salut sera pour ta fillette. Le mouvement est donc le même pour la femme et pour Jaïrus. Une foi sans réserve, justement pas superstitieuse, une foi qui lâche tout savoir, toute construction rationnelle, une foi qui place son intelligence en une plus puissante intelligence, celle du cœur et de l'amour. À la différence des médecins de son époque, Jésus ne refuse pas de soigner, quelle que soit l'idée du salut de la personne qu'il va soigner, quelle que soit l'idée de l'issue de sa maladie. À la différence des médecins de l'époque, avez-vous noté, Jésus ne monnaie jamais ces guérisons, ni ne se les attribue en une quelconque gloriole. À la différence des médecins qui ont ruiné cette femme, il les reconnaît, ceux qu'il guérit, venant vers eux, envoyés par Dieu, et il reconnaît les miracles comme venant d'une puissance qui le dépasse, qu'il expérimente lui aussi. Et il associe ses guérisons à la foi et au salut. À la différence des autorités juives, Jésus ne se laisse jamais repousser par une quelconque peur de l'impureté. Tout au contraire, par sa vie, il combat ces notions d'impureté. La vie pour lui est bien plus importante. Un être ne peut être exclu pour quelque cause d'impureté. La vie passe par la parole redonnée, la reconstruction de ce qui était brisé, et Jésus ne laisse jamais personne tout seul après avoir été guéri. Ces guérisons sont des temps de proximité du royaume de Dieu. C'est une notion assez fréquente dans l'évangile de Luc. Aujourd'hui, que personne, cependant, ne se sente manqué de foi et vivant sous la culpabilité si la maladie avance malgré l'espérance. Ce n'est pas seulement la foi et la grande force de prière de l'humain qui attirent la guérison. Et la guérison n'est peut-être pas seulement celle du corps. Elle passe par la rencontre et la confiance pour traverser ce qui fait peur, la peur de la souffrance, la peur de la mort, la peur de la séparation. C'est ainsi qu'on retrouve la phrase de l'épître de Jean : nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Une de mes amies théologiennes et biblistes écrit dans un gros livre qui est très intéressant : Luc fait de Jésus un homme qui surpasse tous les médecins, car il porte une puissance guérisseuse qui ne dépend pas des circonstances. Et nous avons vu plusieurs cas totalement différents. Pour moi, avant de vous quitter, après un mois de réflexion avec vous sur cette question « Qui est Jésus ?», je pense que je répondrai « C'est l'être, l'homme créé à l'image de Dieu, qui nous attend et qui nous espère, porté chacun par cette force d'amour et de compassion qui émane de lui, qu'il a reçu de Dieu. » À chacune et à chacun de nous de réfléchir maintenant à sa réponse. Qui est cet homme, Jésus ? Amen.